quand Picasso est arrivé dans la peinture, il s'est tout de suite situé à l'avant-garde. Ses amis s'appelaient Max Jacob, Apollinaire, qui avait exactement le même âge que lui, qui crevait de faim comme lui. Et Picasso, dès sa première exposition à Paris, l'exposition chez Vollard, en 1901, est apparu comme une sorte de génie de 20 ans, qui a eu d'ailleurs un énorme succès. Il a eu le courage de tout briser pour faire la période bleue, s'engager dans la misère bleue, où il n'a pas vendu une toile pendant 3 ans, il a connu la misère. Après, il est arrivé sur les saltimbanques, il a de nouveau connu le succès. Il a eu le courage de tout casser de nouveau pour faire les Demoiselles d'Avignon, c'est-à-dire de s'enfoncer dans une période qui, même encore aujourd'hui, reste aux yeux des gens comme une période difficile de son œuvre et compliquée. Et précisément, les choses qui passaient pour des mystifications, les premiers papiers collés, faire une peinture avec des bouts de papier journal en guise de couleur, les premiers assemblages où on prend quelques planches, une forme ouverte et ça devient une guitare, tout ce qui paraissait le plus vraiment mystificateur dans le cubisme, et bien maintenant il n'y a qu'à voir ce que les peintres d'aujourd'hui en font. Cocteau a dit un jour que Picasso ne désarçonnait les gens que parce qu'il allait plus vite que la beauté, et qu'il y avait un moment où la beauté le rattrapait, et bon, on commençait à comprendre Picasso.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Pablo Ruiz Picasso a 19 ans lorsqu'il débarque à Paris, à la gare d'Orsay, tout juste inaugurée. Le jeune peintre doit exposer une de ses toiles dans le pavillon de l'Espagne érigé pour l'exposition universelle de 1900. Poussé par son père à le suivre dans une voie académique, celui qui ne va pas tarder à signer Picasso tout court expérimente déjà un nouveau style avec ses amis de l'avant-garde barcelonaise. Ses séjours à Paris, où il choisit de s'installer une année plus tard, vont être déterminants. Imprégné de la peinture des fauves et des post-impressionnistes, payant son tribut à Van Gogh et Toulouse-Lautrec, bouleversé par la hardiesse du bain turc d'Ingres exposé en 1905 pour la première fois, Picasso va traverser 6 années décisives durant lesquelles se forge son identité artistique et se bâtit sa célébrité. Au musée d'Orsay se tient jusqu'au 6 janvier 2019 l'exposition Picasso bleu et rose qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte, même si, ou plutôt surtout si vous croyez tout connaître du génie franco-catalan. Outre la stupéfaction ressentie devant ces toiles incroyables réalisées par un gamin de 20 ans, on peut y découvrir pour la première et vraisemblablement la dernière fois de notre vivant des chefs-d'œuvre qui éclairent les sources et les obsessions de l'artiste. Des chefs-d'œuvre qui, à l'époque, jugés trop mélancoliques, voire morbides, ont eu du mal à se vendre et qui aujourd'hui valent des millions de dollars. Laurent Lebon, président du musée Picasso, est le commissaire général de cette passionnante exposition. Bonsoir Laurent Lebon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en cette période intense. Alors tout démarre à Orsay où se déroule cette exposition qui était une gare inaugurée pour l'exposition universelle de 1900. Pablo Picasso qui y débarque, il a 19 ans et déjà il rumine une rupture avec son père, une rupture avec la peinture classique, même une rupture avec ses amis catalans de Barcelone, où il est déjà devenu une petite célébrité.
Tout à fait. Je crois qu'il était évidemment attiré par les lumières de la ville, mais il voulait tout simplement rompre, effectivement, avec ce cabaret des quatre gats, ses amis, qui au fond, on le voit dans l'exposition au musée d'Orsay, pratiquait un style assez proche de lui. C'est parfois difficile de les distinguer, mais il sent un appel, tout simplement. Et c'est un coup de chance, presque, cette invitation pour l'exposition universelle qui va lui permettre de découvrir ce qu'était la capitale des arts.
Alors, une toile choisie par l'Espagne pour la représenter dans son pavillon à l'exposition universelle, une toile qui s'appelle « Dernier moment », qu'on ne verra pas, parce qu'en fait, cette toile qui a marqué son entrée dans la vie de Picasso, et non plus de Pablo Ruiz Picasso, cette toile, elle a disparu parce qu'il a repeint par-dessus une toile qui, elle, est célèbre et qui est dans l'exposition et qui s'appelle La Vie. Il l'a repeinte en 1903.
Oui, Picasso marche évidemment par rupture, par métamorphose, aussi parfois les manques de moyens, tout simplement, l'amènent à prendre ce qui est autour de lui. Mais là, je crois qu'il faut y voir tout simplement l'idée de passer à autre chose. Et on a la chance dans l'exposition de pouvoir présenter la vie. Pour les auditrices et les auditeurs, c'est tout simplement un événement. C'est-à-dire que c'est un monstre pictural à grandeur humaine. On est là vraiment face au chef-d'œuvre de la fin de la période bleue, verticale. Et si on le retournait et qu'on enlevait par un coup de baguette magique cette vie, on découvrirait les derniers moments qui montrent la mort, qui est au fond l'écho de Science et Charité, le premier grand chef-d'œuvre de Picasso à l'âge de 16 ans, qu'on a la chance de voir en ce moment au musée Picasso à Paris.
Alors, bleu et rose, c'est 6 ans dans la vie de Picasso, de 1901 à 1906. Et cette exposition, elle s'ouvre formidablement, intelligemment, par 3 autoportraits qui vont de 1901 à 1906. Et rien que dans ces 3 autoportraits que vous allez nous décrire, Laurent Lebon, on voit cette évolution incroyable que fait ce jeune peintre dans ses 5 premières années.
Vous avez raison d'insister sur l'âge et sur la brièveté, l'intensité de la période. On est effectivement sur une période très courte. Et on a là à la fois des ruptures, bleu et rose, mais au fond aussi une grande continuité. Et donc ces 3 autoportraits, pour la première fois réunis, Yo Picasso, 1901, on a là Toulouse-Lautrec, on a là Van Gogh, on a là un feu d'artifice de couleurs, et ce regard évidemment à nul autre pareil. Et juste à côté, quelques mois plus tard, toujours 1901, l'autoportrait dit bleu, un des grands chefs-d'œuvre de la dation de Picasso, ce grand moment où l'État a pu bénéficier de cette manne qui a été évidemment le choix de la famille de payer ses impôts par les œuvres d'art. Et parmi ces chefs-d'œuvre, il y a l'autoportrait bleu. Et on a du mal à croire, lorsqu'on le voit à côté de Yo Picasso, Yo moi Picasso, que c'est le même artiste. On voit un artiste barbu, un artiste mélancolique, un artiste déjà affirmé. C'est l'artiste qui a connu, bien sûr, le choc de la capitale. Et puis, encore à côté, 1906, un tout autre Picasso, un Picasso précubiste, c'est-à-dire le Picasso qui va, bien sûr, annoncer les demoiselles, quasiment sculptural, très abstrait. Et là, je crois que voir ces 3 autoportraits alignés comme à la parade et comme un choc, on a presque envie de ne pas aller plus loin dans l'exposition.
Ça dit tout, effectivement, dans cette première salle, de ce qui va être quand même un chemin à la fois solitaire, parce que c'est la recherche de l'artiste qui est comme ça, une rupture, et en même temps, on y décèle déjà des amitiés et des influences qui vont être très importantes pour Picasso. Alors, cette période bleue, évidemment, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui a fait que pendant 4 ans, Picasso s'est mis tout d'un coup à peindre en bleu de plus en plus sombre, en plus des personnages décharnés, souvent proches de la mort, des personnages qui ont faim, des personnages de miséreux. Alors, on nous dit, c'est parce qu'il a perdu son ami Casagemas, qui était venu avec lui de Barcelone, et qui était un peintre lui aussi, mais qui s'est suicidé. Alors, on nous dit par amour pour une jeune femme. Picasso n'était pas là, et Picasso a appris sa mort et a commencé à peindre des tableaux qui représentent son ami mort.
Le grand danger avec Picasso, bien sûr, c'est d'aller s'affronter à ce débat millénaire, le rapport entre l'art et la vie, au fond. Tenter d'être très rapidement dans la psychanalyse, voilà. Mais quand vous dites « on nous dit », c'est Picasso qui dit à Pierre Dex, son biographe, et qu'il dit très tard, c'est-à-dire comme une révélation après la Seconde Guerre mondiale, quand on découvre ces tableaux, car il faut se souvenir que Picasso gardait beaucoup chez lui, on découvre l'extraordinaire moment peint en son absence du suicide de l'ami Casagemas. Mais là encore, comme les 3 autoportraits, c'est pas un tableau, c'est 3 tableaux. Et on a évidemment décidé de les accrocher sur le même mur. Et que voit-on ? Exactement la même séquence du Yo Picasso à l'autoportrait bleu. On voit un premier petit tableau avec la terrible trace du trou de balle dans la tempe rouge. Et évidemment, là encore, vraiment un feu d'artifice très proche de Toulouse-Lautrec ou de Van Gogh, et le basculement dans le bleu. Mais vous avez raison, c'est un événement qui est sans doute tout simplement comme un précipité chimique d'une plus profonde révolution qu'on a voulu mettre en opposition avec le feu d'artifice de la Galerie Vollard. La Galerie Vollard, c'est le moment où Picasso a sa première grande exposition à Paris.
En juin 1901.
Voilà. Et on sent vraiment que Picasso est un génie, plein de talent. Quelques critiques le remarquent. L'exposition n'est pas un désastre. Il a vraiment un succès et il vend quelques œuvres. Mais quelques critiques lui disent « Attention, peut-être trop de talent, trop de direction. » Et c'est peut-être plus à ce moment-là que Picasso comprend qu'il faut qu'il prenne le risque de plonger dans cette couleur bleue. Cette couleur bleue, il faut rappeler les propos d'Apollinaire, « bleu comme le fond humide de l'abîme et pitoyable. » Et je crois, à ma connaissance, que c'est un des cas très rares de l'histoire de l'art. Tenir comme ça sur des mois et des semaines, surtout sans vendre aucune œuvre. Là, je crois que c'est vraiment un cas assez extraordinaire. De manière un peu provocatrice, on a appelé l'exposition Picasso bleu et rose au singulier, mais au fond, c'est les bleus. C'est une espèce de diversité extraordinairement bouleversante, toutes les teintes de la mélancolie. De la même manière que Basquiat, aujourd'hui exposé à Paris, nous parle beaucoup de la société contemporaine, au fond, Picasso nous parle d'aujourd'hui aussi, dans cette vision terrible. On y voit des migrants, on y voit des pauvres, on y voit la société qui l'entoure, et il sait nous emporter vers un ailleurs grâce à cette magie chromatique.
Alors, cette première exposition qu'a eue le peintre Picasso, c'est, vous le disiez, Laurent Lebon, la Galerie Vollard, c'est en juin 1901, il y expose 64 toiles et des dessins, et à partir de là, quand même, les critiques s'en mêlent, il fait la connaissance de Max Jacob, et puis, celui qui va devenir aussi l'un de ses marchands, Daniel-Henri Canveller, finit par aller le voir, au bateau Lavoir, sous Montmartre, où il s'est installé.
La première fois alors, je suis monté ces escaliers de la place Ravignan, que j'ai tant foulé plus tard, pour entrer dans cette étrange bâtisse qu'on a appelé, comme vous le savez, le bateau Lavoir, plus tard. Bateau Lavoir, pourquoi ? Parce qu'il était en bois et en verre, comme ces bateaux qui existaient encore alors, où les ménagères venaient laver leur linge dans la Seine. J'arrivais donc devant cette porte, comme avait indiqué, comme étant celle de Picasso, qui était couvert de gribouillages d'amis qui donnaient des rendez-vous. Enfin, Manolo est chez Azon, Toto est venu, Dorin viendra cet après-midi. Au fond, Picasso, surtout, a toujours vécu dans la nostalgie de la rue Ravignan. Je me rappelle Picasso, rue des Grands Augustins, me disant, en me montrant le plafond et ces lieux assez délabrés, n'est-ce pas ? Hein, c'est bien la rue Ravignan, c'est tout à fait comme la rue Ravignan. Au fond, il a reconstitué la rue Ravignan partout, et le désordre et tout ce qui s'ensuit. Je vous citerai à ce sujet une phrase de Picasso qui peut paraître même désagréable à certains qui ne comprennent pas. Picasso m'a dit, il y a longtemps, longtemps, je voudrais vivre comme un pauvre avec beaucoup d'argent. Au fond, c'est ça le secret. Picasso voudrait vivre comme un pauvre, continuer à vivre comme un pauvre, mais il est assuré du lendemain. C'est ça qu'il voulait dire. N'avoir aucun souci matériel.
Laurent Lebon, Daniel-Henri Canveller évoque ces années qui ne sont pas qu'anecdotiques. D'abord parce que dans cette exposition, on y voit les tableaux que Picasso y a réalisés. C'est la période bleue juste avant qu'il commence à rentrer dans le rose. Et c'est une période fondatrice, il y rencontre des amis qui vont compter énormément pour lui, il commence à avoir des acheteurs, il commence à s'affirmer comme un peintre, mais il est pauvre encore, la période bleue ne se vend pas très bien, il travaille énormément la nuit aussi. On peut dire aussi que d'une certaine manière, c'est la lumière de ces lampes à pétrole de la nuit qui donne aussi cette teinte sombre à ses toiles.
Je crois que Picasso y était très sensible. Mais revenons quelques secondes sur l'extraordinaire leçon de ce marchand génial Canveller. C'est émouvant, on pense au marché de l'art aujourd'hui. Voilà, il y a sans doute quelques acteurs qui sont dans ce registre, mais là,
plus beaucoup.
Quelle proximité, quelle justesse, cette idée toujours du Picasso Janus. le Picasso pauvre, le Picasso riche. C'est toute sa vie qui est effectivement résumée. C'est pour ça que c'est une période fondatrice. On l'a peut-être un peu trop rapidement balayé d'un revers de la main, notamment peut-être les picassiens les plus fanatiques, qui au fond pensent que le cubisme, et ils ont sans doute raison, est la grande révolution de l'histoire de l'art du XXe siècle. Mais je crois qu'on ne peut pas réduire ces deux périodes dites bleues et roses, qui sont en fait beaucoup plus subtiles, comme vous l'avez souligné, à un moment, je crois, fondateur, car il parle tout simplement de la société, et on le voit dans l'exposition, une immense galerie de portraits, c'est-à-dire l'humanité, dans toutes ses composantes. Il regarde les personnes à la prison Saint-Lazare, il regarde les saltimbanques. Et je crois que vous avez raison d'insister, c'est vraiment dans ce bateau lavoir, cette petite surface, que tout se passe. Et fondamentalement, il développe là une force de création qui ne s'arrêtera jamais. Ce qui vraiment caractérise Picasso et pourquoi il est comme un géant dans l'histoire de l'art de l'humanité, c'est que il est vraiment fort sur la durée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment de baisse de tension. On a vu tellement d'artistes qui, au moment où ils vont basculer dans un confort matériel, vont voir leur production, j'allais dire, s'étioler, que là, avec cette terrible période de la période bleue et rose, il s'est forgé comme une carapace, et au fond, même milliardaire, peu importe, il continuera à travailler sans assistant, il continuera à travailler dans un désordre du bateau lavoir, comme le rappelait Ken Weiler, et il continuera à créer de manière différente jusqu'à la mort en 73.
Alors dans ce bateau lavoir, il s'installe très rapidement avec un de ses modèles qui s'appelle Fernande, qui habitait juste en face, et on a eu ces délicieux souvenirs. C'était en 1957 sur cette radio même.
Il y avait des toiles par terre, il y avait un petit lit dans le coin qui nous a servi pendant des années, une petite table en bois blanc où il y avait des souris blanches dans le tiroir. Alors nous avons vécu là, tant bien que mal, plutôt bien que mal, parce que quand on est jeune, avec beaucoup de monde, Apollinaire, Salmon, Max Jacob naturellement, et la table était ouverte, avec 3 francs, je faisais la tambouille pour tout le monde. Et on n'avait pas souvent les 3 francs. Et puis après, ça a commencé à aller. Les Stein sont arrivés, ils ont acheté. Mais on habitait toujours le bateau lavoir. Et Picasso était toujours habillé en bleu de zingueur et avec des belles cravates, par exemple. Il avait la folie des cravates en crêpe de Chine de couleur vive, comme de Rhin.
But the days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame. One hasn't got for the waiting game. Oh, the days dwindle down to a precious few.
Elles enfantèrent de futurs acrobates parmi les singes familiers, les chevaux blancs et les chiens comme les ours. Ces adolescentes ont, impubères, les inquiétudes de l'innocence. Les animaux leur apprennent le mystère religieux. Les arlequins accompagnent la gloire des femmes, ils leur ressemblent ni mâles ni femelles. La couleur a des matités de fresque, les lignes sont fermes, mais placées à la limite de la vie, les animaux sont humains et les sexes indécis. Des bêtes hybrides ont la conscience des demi-dieux de l'Égypte, des arlequins taciturnes ont les joues et le front flétris par les sensibilités morbides. On ne peut pas confondre ces saltimbanques avec des histrions. Leur spectateur doit être pieux, car il célèbre des rites muets avec une agilité difficile. C'est cela qui distingue ce peintre des potiers grecs, dont son dessin approche parfois.
Laurent Lebon, on vient d'entendre ces quelques lignes de critique de Guillaume Apollinaire, qui a découvert les tableaux de Picasso à ce moment-là, et notamment cette période des saltimbanques, qui elle l'a beaucoup marqué, et qui a permis à Picasso de faire une rencontre très importante pour lui. C'est Leo Stein, un jeune Américain installé à Paris avec sa sœur Gertrude, qui va acheter l'un des premiers tableaux de saltimbanques, une famille avec un singe, et qui ensuite va amener chez Picasso sa sœur Gertrude. Et les Stein vont devenir non seulement des acheteurs très importants pour un peintre qui a besoin de vendre et besoin d'argent pour vivre, mais en plus des gens qui vont ouvrir l'horizon de Picasso. Ce sont des intellectuels, ce sont des Américains. C'est probablement à cette période-là, celle du bateau Lavoir, lorsque les Stein arrivent, un moment très important dans les rencontres.
Ah, je crois que vous êtes là au cœur de ce côté magnétique de Picasso. Souvenons-nous de la citation qu'il avait mise au-dessus de la porte du bateau Lavoir, au rendez-vous des poètes. Et je crois qu'à l'époque, on avait même des collectionneurs un peu poètes. Voilà, certes, Mac Jacob, Apollinaire, on oppose souvent Duchamp et Picasso, mais Picasso avait une phrase très proche de celle de Duchamp. C'est le regardeur qui fait le tableau. Il faut avoir une puissance d'abstraction pour pouvoir repérer dans cette production extrêmement foisonnante du Paris du début du XXe siècle ce génie catalan, différent. Et effectivement, cette famille au singe, on a la chance de l'avoir dans l'exposition. Elle nous vient de Göteborg, ça a été un des prêts très difficiles à négocier. Et j'invite toutes les personnes à venir passer du temps devant une sorte de maternité revisitée. Et ce singe qui est au fond peut-être la figure de l'artiste aussi. On a là, évidemment, un moment crucial dans la période. Et peut-être un basculement d'une mélancolie évidemment très prégnante dans la période bleue à quelque chose qui ressemble plus à une sérénité. On peut pas parler de joie, de plaisir, d'extase dans la période des saltimbanques. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, c'est souvent des scènes à côté. C'est souvent les personnes au repos. Il y a une sorte de capacité d'abstraction du paysage aussi qui est présente dans ces extraordinaires moments avec notamment la jeune fille et l'acrobate à la boule qui nous vient du musée Pouchkine de Moscou, où on a là un moment d'une simplicité extrême, mais dans la tension des regards, peut-être un des plus beaux tableaux du XXe siècle.
Mais c'est quand même assez étrange, Laurent Lebon, de penser que à ce moment où Picasso commence à créer, à trouver son style, sa signature, ses acheteurs, il y a cette mélancolie qui, à des moments, disparaîtra. Bon, l'année dernière, nous avions parlé de 1932, une période d'excitation érotique et de création. Là, au moment où ce jeune peintre trouve sa voix, finalement, et trouve l'écho qu'il espère, ce sont des tableaux parfois morbides. Enfin, il peint des pierreuses de dos. C'est un tableau absolument extraordinaire. C'est toujours dans les tons bleus, mais on sent la misère sexuelle. On sent la pauvreté dans beaucoup, beaucoup. Même cette fillette au panier de fleurs, elle ne sourit pas.
C'est vrai que l'absence de rire, l'absence de joie, la gravité. Je crois que Picasso a conscience que de peindre cette humanité qui l'entoure n'est pas un geste dérisoire. Je ne sais pas s'il a tout de suite conscience de son génie et de sa postérité, mais voilà, c'est peut-être un peu bête de l'affirmer comme ça tout de go, mais dans cette capacité à choisir des sujets sérieux, philosophiques, métaphysiques au sens vraiment premier du terme, je crois qu'il a conscience aussi qu'il marquera des points dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'au fond, il va faire basculer le regard de ses amateurs dans un autre registre qui sera évidemment encore dépassé avec le cubisme, où là, il nous amènera carrément dans une révolution de la perspective.
Alors justement, cette exposition s'appelle Bleu et Rose. Bon, évidemment, on comprend bien pourquoi le titre, sauf qu'il y a énormément de tableaux bleus et on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de tableaux roses. Il y a un moment simplement où le bleu, ce bleu profond, presque noir, commence à céder la place à des couleurs qui sont assez assourdies. Il y a des roses assourdies, des ocres, un peu de rouge. Et en fait, on le date à partir d'un séjour en Espagne où Picasso va partir avec Fernande. C'est à Gossol et il commence à remplir sa palette non seulement d'autres couleurs, mais des traits différents. On va écouter les souvenirs de Fernande sur ce séjour en Espagne.
Quand nous allions en Espagne, son premier soin, nous allions d'abord à Barcelone où il avait ses parents. Et puis après, nous cherchions, nous allions dans la campagne en Espagne. Je me rappelle en Aragon, nous avons été, c'est là où il a commencé son premier tableau cubiste. Nous étions en Aragon, et dès son arrivée en Aragon, il a cherché une vieille maison où il pouvait s'installer comme peintre. Je ne le voyais plus de la journée. Les terres sont ocre, les ciels sont bleus, mais d'un bleu spécial. Il y a des mélèzes, il y a des cyprès, de grands cyprès qui montent dans la montagne. Les maisons sont crayeuses, en forme de cube beaucoup, avec des trous, des fenêtres. Et il a été inspiré, moi, je le dis, il s'en défend sans doute, il a été inspiré pour son cubisme par l'Aragon, par son pays. D'ailleurs, son pays a toujours eu une grande influence sur lui, malgré tout, malgré qu'il s'en défende. Toute sa peinture le révèle.
Alors, Laurent Lebon, Fernande dit, au fond, c'est ce séjour en Espagne qui a réinjecté dans l'œuvre picassienne cette influence ibérique. Il y avait des découvertes archéologiques à l'époque. Il a fait des sculptures, d'ailleurs, sur bois, sur pierre, des sortes de petits masques. Et c'est vrai que ces peintures, ces visages, commencent à ressembler à des masques aussi. Est-ce que c'est exact, cette analyse, sur l'influence espagnole qui, après avoir été repoussé quand il est arrivé, finirait par revenir au moment où la période bleue s'achève?
Alors, il y a toute une influence espagnole qu'on a peu évoquée jusqu'à présent, mais qu'il faut rappeler, c'est bien sûr les grands maîtres, Greco, Velázquez, qui sont présents d'ailleurs dès la période bleue. Mais là, vous mettez l'accent sur quelque chose de fondamental, c'est le rapport de Picasso et du territoire. C'est l'ancrage dans une géographie. Et j'ai eu la chance de faire le voyage à Gossol. Seule différence, on n'utilise plus un âne pour monter, mais je vous assure que quand on arrive sur la place du village, on est là dans une symphonie d'ocre, effectivement, beaucoup plus que de rose. On est plongé dans la terre, dans les montagnes, et on a l'impression exacte qui vient d'être décrite par l'être aimé de Picasso. Et vraiment, on a sensation de cette géométrisation de la personne, et je crois clairement d'un léger petit tango avec l'abstraction, c'est-à-dire que là encore, Picasso, on le sent bien dans les deux ou trois dernières salles de l'exposition, simplifie sa palette. On est dans des nuances tellement délicates que par moments on ne voit même plus les passages, pour parler à la Cézanne. Mais c'est justement la figure de Cézanne aussi qui est là, très présente, hein, de cette lecture à travers des figures géométriques. Mais dans Le meneur de cheval, par exemple, dans Le nu rose, dans tous ces grands chefs-d'œuvre de cette période, on voit évidemment le paysage de Gossol. Et donc, c'est clair et net, le retour sur ce terroir espagnol influence directement l'artiste. Mais c'est là le génie de Picasso, c'est qu'on vise à l'universel. On peut ne pas le savoir, peu importe. On voit là le meneur de cheval, le même qui fait écho à toute l'Antiquité gréco-romaine, le même qui fait écho à Cézanne. Et au fond, c'est là, évidemment, ce qui fait que Picasso est différent de beaucoup d'autres.
Alors, cette exposition s'arrête juste avant Les Demoiselles d'Avignon, 1906. Et en fait, quand on a en mémoire Les Demoiselles d'Avignon, c'est vrai qu'on voit bien comment elles arrivent. Et en même temps, c'est à nouveau une sorte de... Pas forcément de rupture, mais c'est quand même déjà un style complètement différent.
Oui, il y a ce dernier mur avec les deux nus du musée d'art moderne de New York qui dialogue avec une toute petite aquarelle. On a dit qu'il y avait beaucoup de tableaux bleus, il y a beaucoup de tableaux roses, mais il y en a aussi beaucoup des bleus et des roses. Et d'ailleurs, dans l'exposition, il y a beaucoup de tableaux qui ne sont pas bleus, ni roses. Mais cette petite aquarelle, je crois qu'elle montre effectivement cette révolution en marche, qui est celle de Picasso, cette fois-ci, qui va évidemment aussi être complètement bousculée par la vision d'autres arts. Hein. Vous l'avez rappelé, la sculpture ibère de ses fouilles, l'art africain, l'art océanien. Et je crois cette capacité qu'a Picasso, qu'à un moment, on arrive dans une impasse. Il synthétise souvent dans un grand tableau la vie, 1903, la famille de Saint-Amand, 1905, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pense qu'il fallait clôturer cette période rose qui, sinon, allait basculer dans une mièvrerie. Et c'est ça que je crois fondamental dans ce projet qu'on a mené collectivement. Je voudrais rendre hommage à toute l'équipe qui m'a accompagné depuis 3 ans. Pour le dire simplement, rassembler des œuvres qu'on ne reverra plus jamais de notre vivant à Paris et qui n'avaient jamais été montrées ensemble à Paris. Et ça, je crois que c'est la force d'un projet d'exposition à l'heure où beaucoup de spectacles virtuels nous interrogent sur la fonction même du musée. Je crois que là, fondamentalement, dans cette exposition, on retrouve le contact à l'original avec des œuvres 1000 fois reproduites. Et beaucoup des premiers visiteurs reviennent vers nous en disant « Mais c'est incroyable, on n'aurait jamais imaginé que cette œuvre était ainsi. » Et au fond, il n'y a pas de plus bel hommage à ce qu'est la fonction d'un musée.
Voilà, c'est une exposition tout à fait passionnante et effectivement, comme vous aimez à le faire d'ailleurs dans votre musée Picasso, Laurent Lebon, qui nous permettent de rentrer dans une œuvre qu'on croit connaître, mais qui est tellement gigantesque qu'on ne la connaît jamais aussi bien que vous, en tout cas, et qui nous permettent de comprendre les influences, les permanences, les ruptures. C'est passionnant, Bleu et Rose, c'est au musée d'Orsay, à Paris, jusqu'au 6 janvier 2019. Mais Picasso, ça ne s'arrête jamais d'ailleurs, puisqu'en ce moment, dans votre musée Picasso, il y a une exposition qui s'appelle « Chefs-d'œuvre ». C'est redondant, Picasso, chefs-d'œuvre, Laurent Lebon, c'est quoi ?
Oui, bah c'est tout simplement un clin d'œil. On a voulu montrer une sorte de contrepoint à l'exposition du musée d'Orsay, qui est focalisée sur 5 années. Et là, on traverse l'œuvre de Picasso. Mais ce sont des chefs-d'œuvre qui sont souvent jamais venus à Paris. Science et Charité, à 16 ans, les Arlequins, dont l'Arlequin de Bâle, la danse de la Tate à Londres. Voilà, donc j'invite les visiteurs qui auraient envie de tout simplement retrouver l'émotion et le coup de poing qu'est le chef-d'œuvre, d'être présent à l'Hôtel Salé, voilà, qui n'est pas mon musée, chère Kathleen, mais qui est le vôtre. C'est
oui,
le musée de la
le
nation.
Le nôtre, allez, disons
voilà.
Le nôtre.
Et là, voilà. Et je pense à Apollinaire, quand vous parliez tout à l'heure de mélancolique, je retrouvais cette citation. On a dit de Picasso que ses œuvres témoignaient d'un désenchantement précoce. Je pense le contraire. Tout l'enchante et son talent incontestable me paraît au service d'une fantaisie qui mêle justement le délicieux et l'horrible. L'abject et le délicat.
Formidable, rien à ajouter. Merci infiniment Laurent Lebon, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Je voulais simplement citer les commissaires de cette exposition au musée Picasso Salé à Paris, Émilie Bouvard et Colline Zellal. Merci à vous Laurent Lebon.
Je vais citer mes commissaires alors du musée d'Orsay.
Émilie
Filippo, Claire Bernardier, Stéphanie Molins, voilà. Beaucoup de femmes, je suis le seul homme et je saurai m'effacer bientôt, voilà. Ça me semble important aussi de les rappeler parce qu'elles ont œuvré merveilleusement.
Merci à vous, au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.